Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte vraiment fascinant, le Laozi Shangjing, le livre du centre de Laozi.
Bonjour.
On va explorer ça à travers une traduction et une interprétation bien spécifique, celle de Romain Gourmand, qui nous propose une lecture assez radicale.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est ici, ce n'était pas de la philosophie pure, mais un vrai manuel pratique.
Exactement, un manuel d'alchimie intérieure. On est loin de l'image du sage qui contemple la nature.
Là, l'angle, c'est le Nedan, c'est ça ? L'alchimie interne daoïste.
C'est ça. Le but, c'est pas de changer du plomb en or dans un labo, c'est de transformer son propre corps, son esprit.
En creuset, en quelque sorte.
Voilà, pour forger ce que le texte appelle l'immortalité spirituelle.
Cette idée du corps comme un univers, un microcosme, c'est pas nouveau, mais là, c'est poussé à un niveau incroyable. Le postulat de base, c'est vraiment que le corps humain est un reflet de l'univers. Et notre mission, si on veut, c'est de comprendre comment ce texte cartographie cet univers sacré.
Une sorte de géographie spirituelle ?
C'est ça. Avec ses paysages, ses palais et même ses divinités à l'intérieur de nous.
On plonge donc dans un corps qui est un temple vivant.
Absolument. Alors allons-y. Le principe fondamental, la clé de voûte de tout ça, ça semble être cette phrase « Ce qui est au ciel est aussi en moi ». Oui, et il faut vraiment le prendre au pied de la lettre. C'est pas juste une jolie métaphore.
Non.
Le texte décrit un panthéon de divinités, les chênes, qui résident à des adresses, je dirais, très précises dans le corps.
Des adresses ?
Oui. Par exemple, la divinité suprême, Taï, lune suprême. Il n'est pas dans un ciel lointain. Il réside au sommet de la tête.
Au point d'acupuncture Bai Wei.
Exactement, la porte des 100 réunions. C'est vu comme la connexion directe à l'énergie cosmique.
C'est une coordonnée GPS sur le corps, en fait. C'est hyper concret. Et ces divinités, elles habitent dans des palais.
Oui, et l'un des plus importants, c'est le palais pourpre, le Zifang. On le situe soit dans la tête, soit dans le cœur, selon les écoles.
Un centre de commandement spirituel.
C'est ça.
Et pourquoi pourpre ? La couleur a une importance ?
Ah, elle est fondamentale. En alchimie daoïste, le pourpre, c'est la couleur de l'harmonie suprême.
D'accord.
C'est, en fait, la fusion du rouge, qui est la couleur du feu du cœur, le yang, et du noir, qui est la couleur de l'eau des reins, le yin.
Donc, créer ce pourpre en soi, c'est unir les opposés ?
C'est créer l'équilibre parfait. C'est une alchimie des couleurs, des énergies.
Et ce qui est encore plus fou, c'est que les noms des divinités, ce sont pas juste des noms, ce sont
des modes d'emploi.
C'est une excellente façon de le dire, vraiment. Prenons Dong Guangfu, le roi père de l'Est, une divinité centrale. Son nom de famille, c'est Wu Wei.
Attendez. Son nom de famille, c'est Wu Wei, le non-agir. C'est comme si on rencontrait quelqu'un qui s'appelle Jean lâcher prise.
C'est tout à fait ça. Le programme est dans le nom.
C'est incroyable.
Et ça continue. Son prénom, Junxian, ça veut dire « seigneur de la pureté » ou « souverain immortel ». Un autre de ses noms, c'est Jundie, le seigneur de la libération.
Donc en une seule divinité, on a tout le chemin.
Toute la feuille de route, oui.
Pratiquer le non-agir.
Pour atteindre la pureté.
Et ça mêle à la libération. Le nom et le programme.
C'est fascinant. Alors on a cette carte, ces divinités programmes. Mais comment on fait concrètement ? Comment on interagit avec tout ça ?
Alors le texte décrit une pratique centrale, le Kunsi.
La visualisation méditative, mais ça sonne un peu moderne, non ? Presque un peu pensée positive.
Oui, mais c'est bien plus que ça. Le mot Kun, il est crucial. Il ne veut pas juste dire « penser à ». Il veut dire « maintenir, préserver, faire exister ».
Ah, d'accord.
L'adepte n'imagine pas seulement la divinité. Il doit la faire exister en lui, sentir sa présence, sa vibration. Jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité tangible dans son corps.
Ce n'est pas penser à, c'est être avec. La nuance est énorme.
C'est un acte spirituel total, et ça demande une discipline. Voilà pourquoi le chemin est très balisé. L'adepte lui-même, il change de nom en progressant.
Ah bon ?
Au début, il est Zhao Tzu, celui qui presse la voix. Puis il devient Wang Jia, celui qui s'engage, qui fait les rituels. Et enfin, Xiao Guang, petite lumière. L'initié qui commença à rayonner.
Et on a même un exemple de prière qui montre bien cette relation très, très personnelle.
Oui, c'est une conversation. L'adepte s'adresse aux divinités avec beaucoup d'humilité. Il y a cette invocation à Taï,
oui,
au seigneur du Dao. Très haut Taï, votre arrière-petit-fils, le modeste initié Wang Jia.
Votre arrière-petit-fils? C'est puissant. Ça établit une lignée directe.
Une filiation cosmique? On n'est pas une simple créature. On fait partie de la famille.
C'est une autre dimension.
Et cette interaction, elle peut devenir très très précise. La visualisation du Dao Jun, le seigneur du Dao, c'est un exemple parfait. C'est presque un protocole technique.
Oui, j'ai trouvé ça saisissant de détails.
C'est une instruction très claire. L'adepte visualise dans son palais pourpre une petite figure. Le corps est jaune, la couleur du centre, de la terre, pour ancrer la pratique.
Et la taille est minuscule au début?
9 fena, environ 2,7 cm.
Pourquoi une telle précision? C'est presque obsessionnel.
Ben, parce que la concentration qu'il faut pour visualiser une image aussi petite et précise est immense. C'est un test et c'est un entraînement pour l'esprit.
D'accord.
Et quand la concentration s'intensifie, la figure grandit jusqu'à 3 kun, environ 10 cm. Mais le plus important...
C'est qu'il n'est pas seul.
Voilà. Il est avec son épouse, la déesse du grand yin.
Ce qui est un enseignement en soi.
Un enseignement fondamental. Il n'y a pas d'accomplissement sans l'union des polarités. La réalisation spirituelle, ce n'est pas une quête solitaire et masculine. Il faut harmoniser le yin et le yang en soi.
D'accord, donc on a cette pratique intense, cette discipline de faire. Mais vers quoi mène? Quel est l'enjeu final de tout ça?
Le but, c'est le shangsheng. On le traduit souvent par « longue vie ».
Mais c'est plus que ça, j'imagine.
Oui, c'est réducteur. Ici, ça veut dire l'immortalité spirituelle. L'idée... C'est pas de rendre le corps physique éternel. C'est de faire en sorte que l'esprit, le shen, soit si unifié, si cohérent, qu'il ne se disperse pas à la mort.
Il continue son existence?
Sur un autre plan. Et le texte utilise une image très forte pour ça.
Le fœtus d'immortalité.
Oui, ou l'enfant rouge, le chizi. C'est le fruit de l'alchimie. L'adepte rassemble ses énergies dans le dantian, le centre énergétique du ventre, et il y nourrit cet embryon spirituel.
Le but, c'est de lui donner naissance, en fait. De donner naissance à une nouvelle version de soi-même.
Un soi véritable qui peut survivre au corps physique. C'est vertigineux.
Complètement. Mais le texte parle aussi de conséquences très concrètes pour la vie de tous les jours.
Absolument. Et c'est là que ça devient peut-être encore plus étrange. Il y a cette idée de registre céleste.
Oui. Dans les reines qui sont liées au destin, il y a deux divinités. Ximiang, le ministre du destin, et Silu, le ministre des registres, des sortes de scribes divins.
C'est ça. Il note les fautes, les mérites de la personne.
Ça sonne presque comme de la comptabilité spirituelle. On ne risque pas de tomber dans un truc un peu superstitieux, faire des rituels pour marquer des points?
C'est une excellente question. Et c'est le piège. Mais le texte y répond. La condition, c'est d'avoir un cœur pur, sans une vraie rectification intérieure, une transformation éthique. La demande est vaine.
Les registres ne sont qu'un miroir de l'état intérieur, donc.
On ne peut pas tricher. Et avec une pratique assidue, l'adepte peut demander à ce que son nom soit effacé du registre des morts et inscrit sur celui de la longue vie. Ce qui suggère une idée radicale, que le destin, en fait, n'est pas une fatalité. C'est quelque chose qu'on peut activement réécrire, de l'intérieur.
Et au-delà du destin, il y a aussi des promesses pour la santé physique?
Oui, les bénéfices sont décrits comme totaux. Lorsque l'enfant intérieur est nourri, le texte dit que les 100 maladies sont éliminées et les 10 000 calamités ne peuvent l'atteindre.
On atteint alors le statut de Jenren.
Un être vrai, un être réalisé. Un humain qui a accompli sa nature originelle, en harmonie totale avec le Dao.
Donc pour résumer, ce Laozi Zhongjing nous offre une vision du corps qui n'est plus du tout une machine biologique.
Non.
Mais un paysage sacré, un cosmos en miniature qu'on peut cultiver, pour y faire naître un état d'être unifié, durable.
C'est une très bonne synthèse. Et si on prend un peu de recul, on voit que cette tradition millénaire, ben, c'est pas juste un mysticisme un peu désuet.
Non, ça explore des questions très actuelles.
La connexion corps-esprit, le potentiel de la conscience, le texte lui-même d'ailleurs était vu comme un talisman, un objet de pouvoir.
Sa transmission était codifiée, réservée.
Absolument. Ce n'est pas un livre qu'on laisse traîner sur une table de chevet. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Le texte se termine par cette phrase très forte. Le fils de Cinabre, c'est moi. Et ce moi, c'est le corps rectifié, Ainsi s'accomplit totalement la voie.
Oui. Alors, ça nous invite à nous interroger. Et si la vérité spirituelle ultime, ce n'était pas quelque chose à trouver dehors, dans un livre ou un maître, mais quelque chose à construire, patiemment, consciemment, au sein même de notre corps? Qu'est-ce que ça changerait au quotidien, de voir son propre corps non plus comme un simple véhicule, mais comme le palais même, le laboratoire même de notre plus profonde transformation?